France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christophe Coin, je suis né à Caen en 1958. Je suis musicien, je joue en particulier le violoncelle, la viole de gambe, entre autres.
Bonjour Christophe Coin.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici à Paris. On est dans votre salon, tout à fait entouré de musique, une sorte de maison des sons avec des instruments à cordes qui sont au mur, un piano, des gravures qui elles aussi respirent la musique. Dans quelle mesure c'est un art de vivre, la musique ?
Disons que c'est une muse qui est très exclusive, et en ce qui me concerne en tout cas, je dirais que c'est une profession, une passion et aussi un hobby, les trois à la fois, donc je ne pense pas que j'en ai d'autres aussi importants.
Votre enfance, il y avait cette même musique qui avait cette grande place ou c'est vous qui avez développé ça ?
Alors je ne suis pas d'une famille de musiciens du tout. Ma mère aimait beaucoup entendre du Debussy ou d'autres musiques, mais elle n'était pas elle-même musicienne. Mon père prétendait chanter faux. Ma sœur a fait un peu de piano, donc je suis le premier de cette...
Prétendait chanter faux, c'est-à-dire que vous trouvez qu'il ne chantait pas faux ou...
Il chantait faux, mais j'aimais quand même quand il me chantait une chanson.
Que faisaient-ils vos parents ?
Alors mon père travaillait dans l'architecture, il était maîtreur d'architecte et ils sont venus s'installer à Caen après la guerre, donc au moment de la reconstruction.
Et votre mère, elle ?
Ma mère elle est bretonne, elle avait travaillé à Rennes dans les imprimeries Auberture, les grandes imprimeries, et puis quand elle a eu ses enfants, elle est restée femme au foyer, comme on dit.
Et alors la Bretagne, c'est une partie de votre enfance, c'était une terre de vacances, par exemple ?
Rennes, oui, chez mes grands-parents, mais je ne connais pas si bien que ça la Bretagne. Mais j'étais quand même au cercle celtique de Caen et j'ai joué de la bombarde pendant plusieurs années. J'ai rencontré des très grands musiciens traditionnels, Pierre Crépillon, Jean-Yves Lemaître, enfin des gens qui m'ont... apporter un sens du phrasé et de la musicalité et de la danse d'une manière complètement orale, mais qui m'est restée très, très présente.
Ça, c'est des souvenirs de petite enfance ou d'adolescence ?
Autour de 12 ans, entre 12 et ouais, 12-13 ans par là.
Et c'était aussi, j'imagine, une expérience de troupe, d'une certaine façon, d'être dans ce cercle, on est plusieurs.
Oui, parce qu'il y a des danseurs, on fait des fest-noz, on organise des sorties en bagade, donc j'ai défilé en costume et tout ça, donc il y a un petit côté, on va pas dire boy scout ou militaire, mais quand même, c'est très influencé par l'Écosse. Ce n'est pas originel de la Bretagne. Ce qui est plus authentique, c'est la musique de couple, la musique de danse, donc Biniou Bombarde.
Et alors, vous aimiez ça, cette musique-là ?
J'adorais ça, et j'aime toujours d'ailleurs. Et je ne la pratique plus, je n'ai plus les muscles des lèvres suffisantes, mais je m'y remettrai peut-être.
Dans votre famille, vous avez évoqué votre sœur. Elle est arrivée avant vous ou vous êtes le cadet ?
Non, c'est une sœur aînée.
C'est une sœur aînée.
Oui.
Et qui, elle, pratiquait la musique ?
Elle a fait du piano. Je pense que je l'ai pas mal complexée, probablement un peu inhibée dès que j'ai fait de la musique, malheureusement. Mais je me rappelle qu'elle m'accompagnait quand même quand j'étais petit. Et c'était fort agréable. Elle a fait du piano jusqu'à avoir sa mention musique au bac. Et puis après, elle a arrêté. C'est dommage.
Complexé parce que vous diriez que vous, très vite, ça a été une évidence que musicalement, vous aviez quelque chose à dire, que vous avanciez plus vite.
Il paraît, en tout cas, tout s'est passé assez tôt.
Mais vous avez commencé par le piano aussi ?
J'ai commencé par le piano, oui. Et j'avais un professeur de piano, une dame, Madame Neveu, qui n'aimait pas beaucoup le piano. Et elle avait trois filles, une était violoniste, l'autre altiste, violoncelliste. Et elle, dès qu'elle a remarqué que j'avais une bonne oreille, elle a dit « il faut qu'il fasse un instrument à cordes ». Ma mère a dit tout de suite « pas le violon ». C'est interdit.
Elle avait peur que ce soit trop pénible.
Elle avait des mauvais souvenirs, je crois, du collège.
Parce qu'elle-même avait pratiqué, alors.
Ou une amie à elle, je pense, lui a un peu cassé les oreilles. Et donc, comme il y avait un professeur de violoncelle excellent à Caen et que c'était, il n'y avait pas eu le boom du violoncelle post-Rostropovitch, on va dire, qui fait que tout le monde voulait faire du violoncelle, on m'a mis dans cette classe chez un professeur formidable qui s'appelait Jacques Ripoche.
Et c'est quoi, c'est le milieu des années 60 ?
Oui, c'est ça, j'ai commencé vers 7 ans, donc 65. Oui. Et il n'était pas convaincu parce que j'étais gaucher. Et donc à la classe, chez lui, je tenais l'archet de la main droite, comme il me disait. Mais dès que j'ai arrivé à la maison, je prenais l'archet de la main gauche. Mais comme je ne changeais pas l'ordre des cordes, ça compliquait un peu la chose. Donc les débuts ont été un peu laborieux. Et il a dit à ma mère, je suis pas sûr de pouvoir le garder, etc. Je n'envisageais pas de tenir l'archet autrement que le porte-plume à l'école. Pour moi, c'était lié à l'écriture, c'était lié au langage. Et donc, je me rappelle, comme j'étais dans une école tendance Montessori, où j'étais pas obligé d'écrire à droite, mais j'avais pas à changer, on m'avait pas obligé à changer. Donc j'ai changé moi-même, je me suis forcé, je mettais ma main derrière le dos, la main gauche, et je me suis forcé à écrire à droite. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu tenir l'archet de la main droite.
Ah, c'était interdépendant.
Ouais, ouais. Et là, bon, évidemment, ça allait beaucoup plus vite.
Comme autrefois, Éliane Richepin, Jacques Ripoche.
Votre rapport à cet instrument, comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce que c'est un instrument qui vous a attiré visuellement aussi ? Est-ce que c'est un son ?
Alors pas du tout, je n'étais pas particulièrement attiré par cet instrument. J'étais même un peu impressionné et réticent par cette espèce d'armoire. Par contre, quand il a commencé à jouer, Ripoche, alors là ça a été un choc. Je me rappelle qu'il a...
Dans la classe ?
Oui aussi, mais il a fait un récital. Alors que je commençais le violoncelle, il a fait rester à la piano. Je me rappelle plus exactement ce qu'il jouait, je crois les pièces de Schumann. Et c'était un musicien qui avait une patte sonore incroyable et surtout un investissement musical très dense, une présence. Bon, il avait travaillé aussi avec Pablo Casals en même temps que Greenhouse à Prades. Et donc, il était de cette école, si vous voulez. Mais quand il jouait, alors il vivait complètement sa musique, il respirait très fort, il faisait des grimaces, etc. Et moi, j'étais persuadé qu'il souffrait le martyr en jouant. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout le long du récital parce que j'étais persuadé qu'il avait très mal en jouant. Mais je me rappelle que cette sonorité qu'il avait même sur mon petit violoncelle car, qui sonnait à peu près comme une planche à laver, il arrivait à en tirer des sons qui étaient très beaux, harmonieux, profonds, chaleureux. Et moi, j'en tirais que des sons comme un débutant. Donc, cet exemple, si vous voulez, vivant, était pour moi le but à atteindre. Il fallait que j'arrive à améliorer mon son jusqu'à obtenir ça. Et je dois dire qu'il jouait beaucoup pendant la classe, même à l'unisson, il jouait avec les élèves, on jouait la même chose, ou il accompagnait, etc. Donc c'était vraiment la musique un peu comme le maître indien, c'est-à-dire l'exemple vivant qu'on imite. Il n'y a pas besoin de commentaires, il suffit d'imiter, on se débrouille pour arriver à un résultat équivalent. Et ça, je pense que c'est quand même, j'en suis persuadé, la seule vraie méthode.
Oui, la méthode de l'exemple.
Oui.
Et puis de jouer aussi avec l'élève.
Oui, de le motiver, de le pousser, de le stimuler aussi. Il nous faisait jouer aussi ensemble, plusieurs dans la classe, donc il y avait une émulation très forte.
Et alors, quand vous dites qu'il était de cette école, en parlant de l'école Pablo Casals, c'est quoi cette école Pablo Casals?
C'est une intensité, une présence et surtout pas de discrimination de qualité, c'est-à-dire que même si on faisait un exercice ou une petite pièce pour enfants sans importance ou un concerto d'études qui sont très dénigrés, mais parce qu'on doit les jouer parce que ça fait faire de la technique, lui il les voyait comme des pièces de grande musique. Et donc il trouvait toujours les doigtés les plus expressifs, les coups d'archet les plus intéressants, le phrasé le plus spécial. Et ça, je pense que c'est très important de considérer la musique comme quelque chose de valable pour s'élever de toute façon. Après, c'est à l'interprète d'en faire quelque chose. J'ai été un peu déçu après dans mes études, même au Conservatoire de Paris, parce que cet aspect-là n'était pas du tout considéré de la même manière.
On sent que c'est quelqu'un qui a été peut-être même extrêmement déterminant dans votre vie de musicien, en fait. C'est lui
c'est sûr.
Vous a donné le goût.
C'était quelqu'un de plus que généreux. Il était complètement dévoué pour ses élèves. Je me rappelle qu'à 7h30, il sonnait chez nous pour faire les gammes avec moi, avant que j'aille à l'école. C'est un peu l'école russe, c'est un peu, mais sans dureté, sans agressivité. Juste par générosité et dévotion.
Musique, les grands entretiens de Christophe Coin.
Ça ressemblait à quoi la vie quotidienne? On sent que l'école, vous avez été ravi de la quitter, c'était pas vraiment votre truc. Si on pense à cette petite enfance avant le grand trajet qui va vous emmener à Paris et puis ailleurs, si on reste à Caen encore dans ces 10 premières années?
J'ai été dans de très bonnes écoles quand même, et puis j'avais des bons copains, donc je peux pas dire que je m'en plains, au contraire, mais je sentais que j'étais pas fait pour des études, en tout cas pas scientifiques, ça c'est sûr, mais j'aurais pas su quoi mettre dans l'autre balancier par rapport à la musique.
Donc très vite, la musique a pris toute la place.
Ouais, on peut dire comme ça, oui.
Les moments que vous avez pour vous, vous aimez les passer de quelle façon?
Comme tous les enfants, devant la télé. Ma mère, des fois, me forçait quand même pour travailler mon violoncelle. Mais je dois dire que, oui, aller au conservatoire, Faire de la musique de chambre, faire de l'orchestre, prendre la leçon avec mon professeur, ça c'était jamais un problème. Ce qui était plus un problème, c'était de travailler seul.
Ouais, ça c'était difficile. La discipline.
Ouais, plus difficile. Ça l'est resté.
Et le rapport à l'instrument même, est-ce qu'il a évolué quand vous êtes enfant? Parce que c'est vrai que c'est un instrument avec lequel on grandit. Donc, on change. On passe du quart au demi, du demi à l'entier. Ça, ça faisait partie des étapes quand vous dites que vous aviez comme graal d'être, comme votre professeur investi, de sortir les sons que lui parvenait à sortir. Est-ce qu'il y avait tout d'un coup ce goût qui se développe aussi par rapport à l'instrument même, où il n'y a jamais eu tellement cet attachement? Parce que là, on est entouré d'instruments autour de nous, donc on se dit que vous avez fini par l'aimer, quoi, ce bois et cet instrument.
Oui, je l'aime, mais je ne peux pas dire que je suis aussi violoncelliste que d'autres violoncellistes. Il y a des gens qui ne pensent que violoncelle, qui ne voient que par ça. Il y a énormément de festivals de violoncelle, de rencontres, etc. C'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, évidemment, quand j'ai le violoncelle dans les mains, j'ai quand même un rapport spécial avec l'instrument. Il faut dire que M. Ripoche avait quand même, de son éducation avec Ecking et Casals ensuite, avait quand même gardé le goût pour les cordes boyaux et obligé ses élèves débutants à commencer sur des cordes boyaux. Donc je me rappelle très bien avoir commencé le violoncelle avec un la et un ré en boyaux, comme je joue maintenant le violoncelle baroque. Ça s'effilochait, il y avait des petits fils, des petits cheveux qui se mettaient. Donc il prenait son allumette, il brûlait ça plutôt que de changer la corde pour nous faire économiser. Mais donc ce son du boyau qu'on entend chez Casals, qui gratte un peu, qui est un peu sauvage, un peu animal, je pense qu'il est rentré dans mes oreilles très tôt. Et c'est peut-être ça qui est ressorti plus tard avec l'apprentissage de la musique ancienne.
Et c'est pas commencer par le plus facile, parce que c'est quand même plus aisé de sortir un son correct quand on commence sur une corde en métal.
Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous l'interdisait, parce qu'il disait c'est trop facile et vous n'apprendrez pas à modeler le son comme il faut.
Pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, quand on a une corde en boyau, dans quelle mesure on forge plus le son qu'avec une corde en métal?
Ben, si vous voulez, c'est...
C'est la pulpe du doigt?
Non, la corde métal supporte beaucoup plus de choses parce qu'il y a une tension plus forte. Donc si l'archet n'est pas à la bonne place ou si on n'a pas le bon angle de mèche, y a toujours quelque chose qui sort, comme vous dites, qui est sortable. Alors qu'avec le boyau, non, c'est tout ou rien. Et ce tout ou rien oblige évidemment l'élève à choisir le bon chemin. C'est, je crois, la particularité des instruments anciens, c'est de nous montrer un chemin étroit, mais un chemin très clair.
Et donc ça induit aussi un certain travail de l'archet, alors?
Oui, c'est ça. Et je me rappelle qu'on travaillait le développement de l'avant-bras, la souplesse du poignet, enfin tout ce qu'on voit dans les traités, dans les méthodes du 19e siècle qu'on a malheureusement un peu oublié peut-être aujourd'hui, ou délaissé, au profit d'autres choses, d'autres particularités. Mais parfois je pense que c'est dommage de ne pas revenir à ces sources.
Quand vous êtes dans ces moments-là de travail, vous nous dites que travailler, même encore aujourd'hui, cette aridité-là du travail, c'est pas tout à fait votre truc. Mais est-ce que Jacques Ripoche, il arrivait à vous donner le goût qu'il avait visiblement, lui, d'investir chaque musique, qu'elle soit le travail d'une gamme ou...
Absolument.
Ça vous est quand même parvenu?
Ça m'est resté. De considérer, à partir du moment où il y a du son, il y a un effet sur la sensibilité et donc sur l'affect. Et donc, il faut le prendre au sérieux et le travailler. Et ne pas dire, ça c'est de la technique pure, je m'en sers comme gymnastique. Quoi. Je pense que ça n'existe pas. Et je crois que beaucoup de problèmes aussi techniques viennent du fait qu'on ne les considère pas comme des problèmes musicaux. On ne les aborde pas assez musicalement. Thank you.
vous avez joué de la guimbarde, puis du piano, de la flûte à bec et enfin du violoncelle. Le violoncelle, il a rempli davantage que les autres instruments hein, une manière de parler, une manière de chanter. En quoi vous vous attachez à ce moment-là, à cet instrument-là, plus qu'aux autres
J'aime beaucoup la musique traditionnelle, je ne vais pas du tout faire d'échelle de valeur. Chaque musique qui a gardé sa force a toutes les qualités pour satisfaire l'âme humaine, mais évidemment dans le répertoire de la musique classique, et la richesse de l'harmonie, quand j'ai abordé l'élégie de Forêt ou des choses comme ça, évidemment j'ai été complètement séduit par cette richesse harmonique ou quand j'ai joué une suite de Bach, ça a été évidemment pour moi surtout ça qui m'a attiré. C'est peut-être aussi la force du langage, des intervalles, leur rhétorique intrinsèque qui fait que voilà, en entendant une mélodie, tel intervalle vous apporte telle émotion. Même s'il n'y a pas de mots dessus, on arrive à ressentir le message intérieur.
Vous étiez comment enfant en termes de caractère, vous diriez, si vous deviez vous décrire ?
Plutôt timide, un peu, je suis resté de toute façon un peu ours. Certaines personnes pourraient dire autiste à la limite, mais je ne pense pas. Mais je pense que c'est surtout un besoin de liberté. J'aime garder mon indépendance.
Et une envie d'évasion aussi.
Et la musique, enfin jouer un instrument, c'est quand même à la fois s'évader et se procurer un plaisir incroyable. Un plaisir auditif, un plaisir tactile. Donc c'est une satisfaction qui est, je pense, aussi forte que l'adrénaline que peuvent ressentir les sportifs quand ils font un marathon. Donc je pense que ça peut satisfaire tout à fait l'esprit et le caractère d'un jeune, surtout s'il est un peu, justement, je dirais pas isolé, mais pas forcément se sentant pas tout à fait comme les autres.
C'est d'abord pour soi, alors ?
Oui, c'est d'abord pour soi.
Et vous diriez que cette passion qui a assez vite pris beaucoup de place, elle a contribué à isoler aussi ?
Alors oui, pratiquement, parce qu'il n'y avait pas d'horaire aménagé à l'époque, à Caen, ça n'existait pas, les facilités qu'ont aujourd'hui les jeunes. Donc il n'y avait pas de cours de sport, il n'y avait pratiquement pas de récréation, il y avait tous ces temps un peu libres ou moins importants, et j'en profitais pour faire de la musique. Donc forcément ça m'isolait beaucoup.
Thank you. C'est sur cette sicilienne du concerto RV 415 de Vivaldi que se referme le premier épisode des grands entretiens avec Christophe Coin. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yves Lehorse, mixage Éric Villenfin, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.